6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ce matin, l'exil de certains de nos compatriotes musulmans.
Le temps est-il venu des expatriations musulmanes pour cause d'islamophobie ? C'est en tout cas le phénomène qu'une enquête récente documente, et même s'il ne concerne qu'une infime minorité des musulmans de France, il dessine une façon de notre pays et un visage méconnu de la mondialisation. Bonjour Olivier Estévez.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université de Lille, spécialiste du monde anglophone. Vous venez de faire paraître au Seuil avec Julien Talpin et Alice Picard. L'ouvrage « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », sous-titre « Enquête sur la diaspora française musulmane ». Il faut commencer par dire que c'est un groupe très particulier que vous éclairez, des enfants d'immigrés qui ont très bien réussi scolairement, bien plus que la moyenne. Cette dynamique d'ascension sociale, c'est leur première caractéristique ?
Oui, sans doute. Alors en fait, il faut savoir que 54% de nos enquêtés ont un niveau de bac plus 5 au moins, ce qui contraste à la fois avec la population française prise dans son ensemble et puis avec la composante musulmane de la société française telle qu'elle peut être par exemple investiguée dans l'enquête trajectoire et origine de l'INED et de l'INSEE.
Et le second point important pour caractériser ce groupe social, donc encore une fois que vous documentez, c'est la place que la religion occupe dans leur vie. De culture musulmane, avec des parents qui pour la plupart n'extériorisaient pas leurs pratiques religieuses, il s'agit de personnes pour qui l'islam joue un rôle primordial et qui en ont une pratique très visible, notamment par le port de signes distinctifs. Est-ce qu'ils sont en cela typiques, représentatifs de la religiosité des deuxièmes générations d'immigrés, ou est-ce qu'ils sont plutôt exceptionnels face à des tendances plus générales de sécularisation, Olivier Estévez ?
Bon, alors c'est une question très complexe, je vais vous la faire courte. De façon générale, on va dire que notre échantillon se caractérise par une forte religiosité et aussi par une identification assez importante à la religion musulmane, notamment dans un contexte justement de cristallisation islamophobe, c'est-à-dire que un certain de ces personnes ont une sorte d'identité réactive qui consiste justement à défendre leur islam et leur islamité quand celle-ci est fréquemment quand même stigmatisée dans l'espace public.
Oui, mais vous dites que c'est 74% de votre échantillon donc montre que la religion est un vecteur important, voire primordial, d'identification. Et c'est une donnée qui ne concerne que 30% de la population musulmane générale. Donc là encore, c'est très spécifique.
Oui, tout à fait. C'est sans doute le deuxième caractère saillant de notre échantillon d'enquêté, le fait que ce sont des personnes qui, effectivement, ont fait de longues études et qui, pour qui la religion est importante de manière générale.
Et donc c'est dans ce contexte qu'ils font l'expérience ordinaire des préjugés xénophobes, du racisme auquel n'échappent pas les institutions publiques. Dans les témoignages que vous citez, les femmes qui portent un voile sont tout particulièrement ciblées. Pour une partie de la communauté nationale, le voile, analysez-vous, est vécu comme un affront républicain, une féminité hérétique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Oui, alors j'aime bien votre utilisation du terme républicain, c'est-à-dire que bon, depuis quelques années, voire quelques décennies, on a affaire effectivement à l'exacerbation de passions républicaines ou laïcistes autour du voile. Il faut savoir, vous le savez sans doute vous-même, que la première affaire du voile en France, c'est quand même dans un collège de Creil en 1989, donc on est 35 ans après. Effectivement, 35 ans qui sont émaillés par des controverses autour du voile qui, de fait, font de la France une exception dans la démocratie libérale, même si effectivement l'islamophobie, de fait, n'est pas un apanage franco-français.
Et du coup, comment ce voile est perçu ? Enfin, pourquoi c'est spécialement un point de cristallisation ? Parce que ce que vous dites, c'est on a des personnes qui ont une identité qui vient du rejet qu'elles subissent, et en même temps, vous décrivez un cercle vicieux, puisque du fait de cette identité très, très marquée dans l'espace public, qui vient parfois contrevenir à la loi, en ce qui me concerne le port du voile, l'islamophobie grandit. Donc
oui, qui vient contrevenir à la loi, avec aussi cette idée que bon, si on prend par exemple la loi de 2004, hein, qui de fait a clarifié la situation dans les écoles, a aussi créé un flou assez délétère, en dehors effectivement des écoles, où nous on recueille dans notre livre hein, des témoignages de personnes qui, de fait, ont été interdites de porter un hijab sur le travail, dans des circonstances qui, de fait, sont illégales. Enfin, donc ça, c'est un autre élément qui est important. Bon, avec aussi un certain nombre de contrastes en fait avec l'expérience vécue dans un pays comme le Canada, et ça inclut même le Québec en fait hein, parce qu'effectivement au Québec il y a eu la loi 21 donc qui a interdit aux fonctionnaires donc de porter des signes religieux, mais il incombe aux fonctionnaires et aux seuls fonctionnaires donc de ne pas porter de signes religieux, et donc les personnes qui utilisent les services publics elles-mêmes peuvent, et donc ça inclut les écolières, peuvent effectivement porter un hijab. Donc là on a vraiment l'expérience d'une d'un contraste assez saisissant entre, même entre le Québec et la France.
Oui, mais somme toute, c'est ce qu'on peut appeler des préférences collectives. Enfin, c'est comme ça que les diraient les économistes. Ce qui ressort beaucoup des témoignages de votre ouvrage, Olivier Estévez, c'est que bien au-delà des comportements des individus qui sont souvent des micro-agressions, on a un poids du climat politique. Et là, les médias sont particulièrement visés.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui revient vraiment très très souvent, c'est les médias, les chaînes d'infos, voilà, les chaînes d'infos en continu, un certain nombre de journaux, un certain nombre de journalistes, d'éditorialistes chez des personnes donc qui sont nées en France. Ça, c'est un fait qu'il faut marteler. Les personnes donc, qu'on a interrogées pour l'écrasante majorité d'entre elles sont nées en France et sont donc de fait françaises, et qui se sentent donc effectivement systématiquement rappelées à leur altérité au travers de la répétition de ces discours-là. Et là, pour le coup, ça contraste de façon vraiment saisissante avec leur expérience ordinaire à l'étranger. Et ça repose des fois sur des choses très très simples. If you speak English like this, if your name is Mohamed or Marie-Charlotte, you are identified as French if you go to London or New York. C'est le premier contact en fait que les personnes ont. C'est très important. Un autre élément également, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais c'est ce qui relève du racisme de classe en fait. Il y a aussi du racisme de classe dans notre enquête. Quand vous dites « wesh, c'est abusé », par exemple, si vous dites ça dans une entreprise française, vous êtes facilement identifié comme une carrière de banlieue. Si par contre vous dites ça dans une entreprise à Montréal, on va considérer que c'est un parler exotique, un parler français assez original. Et ça, nos enquêtés en font l'expérience quotidienne, quoi.
Et donc, il y a une expérience de la mobilité qui est assez importante et qui, au moment de la délicate insertion sur le marché de l'emploi, va pousser cette élite culturelle et économique d'origine immigrée à faire le choix de s'expatrier. Vers quel pays se dirige-t-il ?
Alors, de façon générale, donc le Royaume-Uni coche toutes les cases, puisque le Royaume-Uni, à la fois, a mis en place des politiques anti-discrimination depuis maintenant des décennies. Donc, le Royaume-Uni est vu comme, effectivement, le lieu de la non-discrimination sur le marché du travail. Le marché du travail britannique est vu comme très dynamique. Et la proximité géographique avec la France qui est centrale, parce que quantité de nos enquêtés sont très proches de leur famille, donc elles peuvent y revenir assez facilement. Ensuite, il y a le Canada et il y a Dubaï. Enfin, Dubaï en deux, en fait, et puis le Canada en trois, en tout cas pour notre volet quantitatif. Donc, effectivement, cette enquête qui est menée auprès de 1070 personnes.
Donc, on comprend que si certains recherchent une homogénéité culturelle musulmane, ça va être peut-être le cas quand on va vers Dubaï, vers la Turquie et le Maroc aussi, d'autres, en fait, ne veulent qu'un degré de plus dans les libertés individuelles. Vous le diriez
comme ça ? Tout à fait. Alors, on montre également, ça fait écho aux travaux, par exemple, d'Amélie Le Renard, que dans des grosses entreprises à Toronto ou à Montréal, il y a souvent plus de liberté religieuse que dans certaines entreprises à Dubaï, en fait.
Quel regard portent-ils, ces expatriés, sur la France avec la distance ?
Alors, il y a une sorte de dette amère, en fait. Il y a un sentiment mêlé d'amertume, bien évidemment, voire d'hostilité, pour les raisons dont on a parlé. Et puis, vraiment, un sentiment de dette vis-à-vis de la France, puisque, de fait, la France a financé les études de ces personnes-là. Et donc, ces personnes ont pleinement conscience de ce qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, faire des études supérieures, c'est extrêmement cher. Et que donc, ces personnes nous disent, voilà, nous, on a été vraiment des pratiquants de l'école publique. Hein, on a bénéficié du système.
Oui, parce public. Que vous le disiez au début, ce sont des gens de milieux populaires avec une ascension sociale forte.
Ouais. Donc ça c'est un élément qui est absolument central. Et donc ce sentiment, voilà, d'amertume, moi j'aime bien cette expression de dette amère qui, je pense, résume assez bien le sentiment général.
Merci beaucoup Olivier Estévez. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. C'est le titre de votre ouvrage paru au Seuil. Merci.
Merci à vous.